Voilà, nous avons suivi la lecture de deux textes qui sont au centre de la méditation de ce matin. Mais le thème que nous voulons dégager de cette lecture, que nous voudrions partager ensemble, est intitulé « Les saluts comme initiative et œuvre des dieux en Christ ». Et nous allons, en deuxième lieu, en deuxième temps, partager quelques vérités et quelques acquis qui résultent de ce salut que nous avons gratuitement en Jésus-Christ. Salut, le salut comme initiative des dieux et comme l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. La plupart des fois, quand on réfléchit sur le salut, il y a une question qui y est soulevée. Et la question en question, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y aurait la part de l'être humain dans le salut que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une part, si petite soit-elle, est-ce qu'elle est là quand même, cette part de l'être humain par rapport à ce salut? Il y a certains qui répondent par, bon, peut-être oui. Il y en a d'autres qui disent, oh, non, peut-être non. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la réponse que tu peux réserver à cette question, nous devons tous comprendre. Nous ne devons pas perdre de vue que le salut, c'est d'abord l'initiative des dieux. La seule initiative des dieux et des dieux seuls. Et cela se vérifie par un fait, c'est que personne n'est allé frapper à la porte du ciel pour dire à Dieu que c'est maintenant le moment pour toi, Dieu, de descendre pour sauver l'être humain du péché. Personne n'est allé frapper à la porte de notre Dieu. C'est que Dieu a pris lui-même l'initiative. Et par lui-même, il a pris cette initiative et par l'amour qu'il voulait manifester à l'humanité et de façon particulière aux êtres humains, qu'il y aurait la possibilité de restaurer cette relation avec Dieu qui avait été rompue et brisée par le péché. Relation rompue et brisée par le péché. Et quand on lit la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, vous allez retrouver là la manière dont l'être humain est tombé dans le péché. Et alors que l'homme et la femme étaient tombés dans le péché en désobéissant à la voix de Dieu, alors que l'homme et la femme avaient pris l'option de se cacher devant la face de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, mais Dieu prend l'initiative. Dieu prend l'initiative de le rechercher, de le chercher en posant la question, Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? C'est parce que pour Dieu, ce qui compte, c'est la relation qui doit être établie entre lui et l'être humain. Alors que l'homme et la femme avaient pris l'option de se confectionner à partir de feuilles de figues, des habits pour cacher leur nudité, Dieu va prendre, il va prendre l'initiative de leur confectionner des habits qui sont durables à partir de la peau de l'agneau qu'il a égorgé à leur faveur. Et c'est là que nous trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, que je vais relire pour tout le monde. Il est écrit, « Je mettrai, c'est Dieu qui dit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. » Il est dit au serpent, « Entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Et cette parole, je venais de le dire, qu'elle était adressée au serpent. Là, c'était par rapport à l'être humain. Mais avec un peuple, le peuple d'Israël, Dieu va aussi entreprendre beaucoup d'initiatives pour sauver Israël et pour le préserver afin de ne pas tomber dans les travers. Il va initier, car bien même Israël sera en esclavagisme en Égypte, mais Dieu encore va initier quelque chose d'assez grand. Il va initier la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Comme pour dire, le salut, c'est la sortie. Le salut, c'est la sortie de l'esclavage. Il va initier cela. Et la parole de Dieu en Exode nous dit que Dieu a vu la misère de son peuple. Et il s'est dit que je vais descendre moi-même pour sortir les enfants d'Israël de la main de Pharaon. La sortie, et c'est ça ce que veut dire le salut. La sortie de l'esclavage. Et pas n'importe quel esclavage, c'est la sortie de l'esclavage d'Égypte pour les enfants d'Israël et pour la Nouvelle Alliance, c'est la sortie du péché, de l'état du péché. Le salut est initié par Dieu, ou ce salut qui est initié par Dieu porte le nom. C'est la sortie. Israël devait sortir d'Égypte, mes bien-aimés. Israël ne devait pas continuer à vivre sous le poids de l'esclavage. Israël devait sortir. Sortir du néant, là où il n'y a pas de vie. Sortir de la situation périlleuse pour une situation enviable. Et c'est plus tard qu'Israël va reconnaître cela. Que oui, il fallait que Dieu intervienne pour lui faire sortir du pays de l'esclavage qui est l'Égypte. Et c'est pour cela que ça s'était devenu comme une confession de foi d'Israël. Et Dieu disait toujours, rappelez-vous Israël que vous étiez esclave en Égypte et que moi je vous ai fait sortir par ma main droite. Alléluia. Et c'est Dieu. Et Dieu seul qui fait sortir Lot de Sodome. Alors qu'il avait un regard rivé sur Sodome et Gomorre, alors que Dieu avait déjà mis un plan pour détruire Sodome et Gomorre parce que son péché était abominable, était terrible et terrifiant, Dieu va faire sortir Lot de Sodome pour le mettre à l'abri. Pour le mettre hors du danger. C'est aussi Dieu qui a fait sortir Jonas, le prophète Jonas, du ventre de la baleine pour le mettre au large des rivages. Ça, c'est Dieu seul qui est capable de ça. Et Jonas a passé combien de jours dans le ventre de la baleine? Combien? La Bible nous dit 3 jours. Et c'est la baleine qui l'a vomi au large de rivage. C'est Dieu seul qui est capable de ça. Passer 3 jours dans le ventre d'un gros poisson et se retrouver au large des rivages. Et de manière définitive, mes bien-aimés, quand les temps étaient accomplis, Dieu a donné son Fils Jésus-Christ, son unique pour que nous accédions au salut qu'il a préparé à depuis la fondation du monde, depuis d'éternité en éternité, ce salut, et pour que nous y accédions de façon définitive. Et cette initiative du salut de l'humanité vient de lui et de lui seul, et il l'a accompli au nom et pour l'amour qu'il avait pour l'humanité. Et quand nous disons que quand les temps sont été accomplis, que Dieu devait révéler son amour à Jésus-Christ, c'est que la promesse qu'il avait donnée dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, était accomplie. Était accomplie parce que cette promesse était devenue une réalité dans notre vie et dans la vie de ceux qui se donnent leur vie en Jésus-Christ. Le salut est devenu une réalité parmi nous, parmi son peuple. Le salut est devenu une réalité parmi l'humanité tout entière. Et le salut, donc, ce n'est plus une fiction, comme ce que nous observons dans le film, la science-fiction. Mais le salut est venu jusqu'à nous parce que Christ est mort. Christ est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Le salut est venu jusqu'à nous. Et ce salut, je l'ai dit au départ, que c'est une initiative des dieux et des dieux seuls qui nous ont aimés et qui nous ont montré, qui nous ont manifesté cet amour, on nous dit l'épître aux Romains, quand nous étions encore comment? Sans force. Et Christ est venu, il est mort pour nous. Et cet amour de s'offrir comme une rançon, c'est pour que sa vie, la vie de Dieu en nous, soit effective. Pour que la vie de Dieu soit en nous. Pour que le caractère de Dieu soit retrouvé en nous. Pour que les habitudes, les attitudes de Dieu nous soient données en partage. Et tous les parcours par lesquels il est passé Jésus-Christ notre Seigneur, jusqu'à être abandonné du Père, nous montrent que notre salut a pour origine Dieu lui-même. Et que ce salut, c'est un procès d'abord, c'est un procès entre Dieu et Dieu. C'est d'abord l'affaire de Dieu lui-même. Parce que pour nous sauver, le Fils, comme nous venons de le chanter, s'est senti être abandonné par le Père. Il s'est senti être abandonné par le Père, alors qu'il est le Fils du Père. Vous ne savez pas combien ça fait mal quand on est abandonné par son Père. Et quand même, on va vers lui, il vous repousse. Ça fait très mal. Mais si le Fils a été abandonné par le Père, au point de s'écrier, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et même dire jusqu'à son dernier soupir, que tout est accompli. Et cela veut dire quoi au juste? C'est que Dieu s'est senti être abandonné par lui-même. C'est que Dieu s'est senti être aliéné par lui-même pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé, pour que je sois mis à l'abri de tout danger à qui me menaçait, qui était le péché. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand je médite autour de ce cri qu'a poussé Jésus sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je réalise une chose. Et c'est ce que je voudrais à ce que tu réalises aussi, comme moi, dans ta vie. Je réalise une chose. Que mon péché était tellement grave, que mon péché était tellement grand et lourd, et qui pesait sur moi au point de m'écraser, que ma situation du péché était périlleuse, et que j'avais besoin du salut, et que tu as besoin du salut, car tu as besoin, et moi-même j'en ai besoin, d'être arraché de cet état pécheur pour m'établir ou pour que je sois établi dans l'admirable lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les leçons des disciples là, vous êtes témoin de ça, vous qui êtes là à tous les jours, ou bien assis. Peut-être votre groupe a eu à considérer cela quand vous étiez absent. Nous avions pris conscience que d'abord le péché était une réalité dans la vie de l'être humain. Le péché est une réalité. On ne doit pas se disculper par rapport à ça. Et des fois, on contourne pour passer à côté parce qu'on ne veut pas rentrer dedans. Le péché est une réalité. Et dans ces leçons, vous avez eu aussi à considérer, tout comme moi, et dans le groupe que j'anime, que le péché cause des ravages incalculés, incalculables, des ravages considérables dans la vie de l'être humain. Et Dieu voyant ces dégâts que le péché cause dans ta vie et dans ma propre vie, il a initié le salut en Jésus-Christ pour que ta vie et ma vie soient restaurées, pour que tu sois créé et recréé à nouveau, et pour que tu sois capable de dire aujourd'hui, maintenant, je suis devenu une nouvelle créature, car les choses anciennes sont communes, sont passées, maintenant que toutes choses sont devenues nouvelles, car je suis en Jésus-Christ. C'est la dynamique à laquelle nous sommes tous appelés, mes bien-aimés. Que nous soyons capables de paraphraser cette parole de l'apôtre Paul qui nous dit que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous rappeler que Dieu a été sérieux pour te sauver et pour me sauver. Il a été sérieux et il est allé jusqu'au bout pour que ton salut et mon salut deviennent effectifs et définitifs. En Marc, au chapitre 8, versets 36 et 37, nous avons lu ce qui suit. Que sert-il à un homme ou à une personne, ou que sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il faisait quoi? S'il perdait son âme. Que sert-il? Que sert-il d'être Bill Gates? Que sert-il d'être ces grands personnages qui nous éblouissent par leur ombre dans cette humanité, et ici on perdait son âme. Et ça continue en nous disant, que donnerait un être humain en échange de son âme? Qu'est-ce que toi tu peux donner? Qu'est-ce que moi je peux donner en échange de mon âme? La réponse est là. Si je dis rien, ça sera aussi quelque chose. Parce que rien, en latin, c'est une chose. Mais comme je n'ai pas un autre concept, je dis, que donnerait un homme? Rien. Mais comme l'homme ne peut rien donner en échange pour sauver son âme, ce qu'il peut faire, c'est de se tourner vers celui qui a offert sa vie sur la croix pour sauver son âme. Ton âme, tu ne peux pas l'offrir à quelqu'un d'autre. Et tu ne peux pas te l'offrir à toi-même parce que il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et il s'agit de faire confiance. Faire confiance à l'œuvre accomplie par Dieu en Jésus-Christ et pour accéder à ce salut qu'il nous offre gratuitement. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître que le salut est une grâce et il s'obtient par la grâce. Et Paul éclaire à ce sujet. C'est par la grâce que nous avons été, comment? Sauvés. Et au moyen de quoi? De la foi. Et beaucoup de personnes croient que la foi, c'est la part de l'homme pour accéder au salut de Dieu. Parce que nous voulons toujours aussi nous mettre dans notre tête ce sentiment-là, de se dire que oui, bon, quand même la chose, on ne peut pas l'obtenir très gratuitement comme ça. Il y a toujours un petit quelque chose, oui, que l'homme doit faire. Pas du tout, mes bien-aimés, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que la foi elle-même, c'est une reconnaissance par rapport à ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ pour que je sois sauvé. Alléluia. C'est la reconnaissance. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire comme ta part afin de tomber dans l'orgueil. Mais quand tu dois considérer ça comme une reconnaissance par rapport à ce que Dieu a accompli et pour toi, tu ne peux voir les choses qu'avec d'autres lunettes. Le salut que nous donne Dieu à Jésus-Christ, c'est d'abord question de grâce. Les lingalophones disent, Zali kamboyanini, yangulu. C'est question de grâce. Ce n'est pas question d'avoir part à ce que le Seigneur a accompli à Jésus-Christ. Non. S'il s'agit de donner et de reconnaître sa part dans ce chemin-là, je dois vous rassurer, c'est que vous êtes encore, vous êtes proche du royaume. Mais quand vous devez reconnaître qu'il s'agit de quelque chose qui vous a été offert gratuitement au nom et pour l'amour de Dieu, vous devez avoir d'autres attitudes. Nous venons de parler du salut. Maintenant, il nous faut parler de retomber de ce salut dans notre vie au quotidien. Quelles sont les retombées que nous avons en plaçant notre confiance dans l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus-Christ? On va juste dégager quelques retombées qui sont des vérités inaliénables et qui sont le résultat de ce que Dieu a accompli à Jésus-Christ à notre faveur. La première vérité, c'est que nous ne vivons plus sous une quelconque condamnation. Nous dit Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont comment? En Jésus-Christ. Plus de condamnation, mes bien-aimés. Maintenant, quand tu places ta confiance en Jésus-Christ, tu dois reconnaître une chose et une des retombées de la chose en question, c'est que il n'y a plus. J'ai dit, la parole de Dieu nous dit, il n'y a plus. Vous comprenez ça en français, vous qui faites encore le français, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus a annulé l'acte à qui nous condamnait. Nous dit Colossiens chapitre 2, verset 14. C'est que sur la croix, Jésus a effacé l'acte dirigé contre nous et qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé, nous dit la parole de Dieu, en le clouant sur la croix. Alléluia. Et c'est ça, ce qui doit nous porter, la joie qui doit nous porter. Que je n'ai plus à être condamné. Je ne serai plus condamné parce que Jésus-Christ a annulé l'acte à qui nous condamnait. Et il a fait quoi? Il a annulé l'acte. Il a déchiré cet acte en le clouant à la croix. Mais bien aimé, cette parole veut nous dire que Jésus a été puni à notre place. nous dit Jérémie chapitre 49. Il a purgé la peine qui nous condamnait. Il a purgé. Et les juristes qui sont là comprennent bien le concept de purger. N'est-ce pas, Prisca? Toi qui fais encore le droit. Il a purgé la peine qui nous condamnait. Quand on te dit que tu as purgé ta peine, c'est que tu es acquitté et tu peux retourner tranquillement chez toi à la maison en train de chanter les allèles. Et ce que nous devons faire, c'est de chanter Alléluia. C'est de chanter les allèles parce qu'il n'y a plus de condamnation. C'est que notre peine a été purgée par Dieu. Cette peine que nous méritions, ça a été purgée. C'est que toute personne qui croit Jésus-Christ, qu'elle soit rassurée qu'il n'y a plus de condamnation pour elle. Et elle vit non pas comme ennemie de Dieu, mais comme fils et fille de quoi? De la promesse. Et il est ou elle est au bénéfice de toutes les promesses de Dieu à Jésus-Christ. Et cela change tout dans la vie. Cela devrait changer tout dans notre vie. Que désormais je dois vivre en véritable enfant de Dieu. Parce que je vis dans ses promesses et je bénéficie de toutes les promesses et de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Mon bien-aimé, qu'est-ce que tu attends pour croire et pour t'approprier ce salut que nous avons en Jésus-Christ? Qu'attends-tu pour croire et pour, parfois des conséquences, bénéficier de toutes sortes de bénédictions, de promesses à qui sont à Jésus-Christ? Il me semble que le moment est là pour que nous puissions faire quelque chose, qu'une dynamique rentre dans notre vie afin de comprendre les choses avec un autre regard. La deuxième retombée que je voudrais partager avec vous, c'est qu'en Christ, nous sommes déclarés justes. C'est-à-dire, nous sommes justifiés. En Christ, nous sommes déclarés justes par Dieu lui-même. Nous sommes parmi ceux qui peuvent être comptés pour bénéficier de toutes les promesses et les bénédictions de Dieu. Le mot juste, justifié, justification, les élèves comprennent mieux ces mots-là ainsi que les étudiants. Peut-être nous qui ne sommes plus sur le banc de l'école ou dans l'auditoire de l'université, nous comprenons ça un peu mal parce qu'il y a longtemps que nous sommes passés par là. Si tu as loupé une interrogation et une fois tu présentes une justification, qu'il y a des raisons valables qui t'ont empêché de passer ton interrogation, qu'est-ce qu'on te demande d'exhiber? Quoi? Élève étudiant. On te demande quoi? Une justification. Et quand tu donnes la justification, c'est que tu es compté parmi ceux qui peuvent bénéficier de toutes les bénédictions des autres pendant que toi tu étais absent. Et donc, tu peux passer un rattrapage, une interrogation de rattrapage. C'est que là, quand tu passes cette interrogation de rattrapage, tu es comptable. On peut te compter parmi ceux qui ont passé l'interrogation en bonne et due forme. Mais bien aimé, quand Dieu nous justifie, il nous compte parmi ceux qui peuvent bénéficier de toutes ces bénédictions. Ce que le salut accompli à Jésus-Christ, une fois on s'approprie ce salut-là, une fois on se l'approprie, ça nous dispose de bénéficier de toutes les promesses et de toutes les bénédictions de notre Dieu. Alléluia. De toutes les bénédictions que Dieu a en réserve en Jésus-Christ. Car en Christ, il y a toutes sortes de bénédictions. La troisième vérité que je voudrais partager avec vous comme retombée par rapport au salut qui nous a été donné gratuitement, c'est que Christ, c'est lui qui a payé le prix de ton rachat et de mon rachat. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Pardonnés de tous nos péchés. C'est qu'en Jésus-Christ, tous nos péchés sont pardonnés. Même les péchés les plus redoutables que nous ayons commis. Même les péchés pour lesquels tu as honte de toi-même. Tous ces péchés-là, en Christ, nous sont pardonnés pour nous permettre de vivre un véritable enfant de Dieu. Pour nous permettre de vivre un véritable enfant de Dieu qui est libéré de la vaine manière de vivre. Dans les psaumes, nous lisons une parole de réconfort et qui doit nous mettre sur le chemin de vivre cet acquis du salut qui est le pardon de nos péchés. Et le psalmiste, au psaume 103, verset 12, nous dit « Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est ainsi que j'éloigne de vous vos fautes. » Oh, quelle parole! Et donc, que chacun puisse vraiment réaliser cela dans sa vie pour qu'il vive une vie d'être pardonné. De savoir que même les péchés que je trouve dans ma vie qui soient redoutables et pour lesquels j'ai honte, le Seigneur l'a déjà éloigné de toi. Alléluia. Le Seigneur l'a déjà éloigné de toi en Jésus-Christ. Et le prophète Michée, au chapitre 7, verset 19, de dire que Dieu jette tous ses péchés au fond de la mer. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment bien que d'attendre une parole assez forte comme celle-là. C'est que ton péché, mon péché, quelle que soit la dimension de ce péché-là, Dieu nous dit à travers son prophète qu'il les a jetés au fond de la mer. Ça ne peut plus émerger. Si cette promesse est à toi et à moi, je suis donc appelé, vous êtes appelés, nous sommes tous appelés à vivre comme des hommes et des femmes à qui sont au bénéfice du pardon de Dieu. Il y a des gens qui vivent avec des mémoires chargées de souvenirs. Je vais les dire, chargés de souvenirs terribles, chargés de souvenirs qui sont horribles, de ce qu'ils ont pu commettre dans leur vie. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, pourquoi t'empoisonnes-tu la vie avec des pensées du mal que tu as commis? Pourquoi tu t'empoisonnes la vie alors que le Christ est là pour te pardonner de tous tes péchés passés? Pourquoi tu restes toujours courbé à cause de ce péché terrible et horrible qui se colle à toi parce que tu en gardes des souvenirs? Le salut que Dieu a accompli à Jésus-Christ t'évite à rencontrer l'autre personne aujourd'hui. T'invite à rencontrer l'autre personne, que ce soit le pasteur ou un des pasteurs, que ce soit un ancien, que ce soit quelqu'un d'autre avec lequel tu peux partager pour que tu sois libéré et que tu puisses jouir du salut que le Seigneur te donne en Jésus-Christ. Tu n'as plus le droit de rester visage courbé parce que tu as les souvenirs de quelque chose qui te fait mal. Mais pourquoi ne pas le partager afin d'être libéré et d'être au bénéfice du grand pardon de notre Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, ne quitte pas ce matin ici, ne quitte pas s'il te plaît, parce que le Seigneur a besoin de la relation que tu peux encore établir. En partageant avec un de vos pasteurs, avec un des anciens, avec un frère ou une sœur, et que cela doit monter, parce que quand tu considères le poids de cela, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un entretien pour que tu sois au bénéfice du pardon. Parce que le Seigneur est prêt à jeter ton péché au fond de l'abîme pour que ça ne puisse pas remonter à la surface. Le Seigneur est prêt à éloigner de toi le mal que tu as commis comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Étant pardonné par Dieu, nous sommes aussi appelés à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Pas empoisonner notre existence avec des dossiers que tu cumules et ça c'est devenu, tu les empiles comme si tu étais en train d'empiler les chaises ou les livres et à faire des comptes, ça va te broyer toute la vie. Dieu nous appelle à nous pardonner mutuellement. Et alors la conclusion de ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est de se poser la question, comment peut-on négliger un si grand salut qui nous a été offert, qui nous avait été offert par Dieu en Jésus-Christ? L'Épître aux Hébreux au chapitre 3, verset 13, jusqu'au verset 15. Ce passage-là nous met en présence de notre responsabilité. Nous allons lire ça parce que c'est fondamental pour nous ce matin. Nous allons lire Hébreux, chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 15. Le verset 13 nous dit ceci, mais, c'est une antithèse, mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endoxisse par la séduction du péché. C'est clair, qu'aucun de vous ne s'endoxisse par la séduction du péché. Quand on s'est dit que mon péché est grand, je ne sais pas si je peux être pardonné. Et là, tu peux t'installer dans un endurcissement. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Et le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 nous dit ceci, que souviens-toi d'où tu es tombé et reviens. C'est que le bras de l'Éternel soit encore là, prêt, tendu pour t'accueillir et que tu bénéficies du pardon qui découle de l'œuvre du salut. Quand nous avons été rendus par participants du Christ, et si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Pendant qu'il est écrit, aujourd'hui, nous allons lire ça nous tous et à haute voix. Pendant qu'il est écrit, allons-y, aujourd'hui, je ne vous entends pas. Si vous attendez sa voix, ne faites pas quoi? Comme lors de la révolte. C'est une parole qui nous appelle à une responsabilité. Une parole qui veut à ce que chacun et chacune, nous tous, nous puissions nous approprier ce salut qui a été accompli à Jésus-Christ. Et célébrer ce salut, c'est de marcher, de vivre à toute dignité les effets de ce salut dans notre existence au quotidien, en tant que personne réconciliée avec Dieu. Il nous appartient, mes bien-aimés, de prendre de bon côté ce salut, qui a été accompli à Jésus-Christ. C'est l'approprier et vivre les retombées de ce salut.